émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement midi 44 minutes. On s'apprête à faire le procès féroce. Des Syndicats, mais surtout de Magali Picard et de sa sortie qui n'a pas de sens hier en commission parlementaire. Ne pas respecter comme ça un parlementaire, un ministre comme Jean Boulet, qui fait de l'excellent travail depuis 7 ans. Moi, ça me sidère complètement. Mais avant, Pascal, on va faire un tour des principales manchettes. Puis on en parlait avant la pause, là. Hey, être commerçant à Lévis, je ne serais pas heureux présentement. Je me poserais des questions. Je serais dans l'incertitude pour reprendre un terme de la guerre tarifaire.
Oui, assurément, mais en même temps, je veux dire, ce qui reste entre les mains de Stephen Blainey au début de son mandat est complexe.
Oui.
Budget 2026 pour Lévis, c'est une hausse de taxes qui est suggérée jusqu'à 24 % pour les commerces. Pourquoi? Ben pour résorber le trou budgétaire qui a été laissé de 13,9 millions de dollars. C'est l'administration lévisienne qui a proposé tout ça au conseil municipal. C'est un peu surtaxé, finalement, une partie des commerces de la ville. Ça risque d'être difficile à avaler. Entre autres, je pense au domaine de la restauration. T'sais, c'est pas un pire que l'autre. Souvent, les marges de manœuvre
sont très minces.
Exactement. Alors ça, c'était un comité plénier budgétaire qui a été web diffusé de mercredi matin. Alors ce matin, au cours duquel il y a eu des paliers administratifs qui a proposé des visions aux élus. Et ils vont devoir avoir le dernier mot pour faire en sorte d'accepter ou de rejeter ces hypothèses-là. Mais c'est assez dur là, de voir comment est-ce que les commerces vont s'en sortir avec une aussi haute hausse de taxes.
Je veux pas dire, je vous l'avais dit, mais quand en onde, je parlais contre le maire Laulier, je disais, sa gestion financière a fait défaut. 7,7 % d'augmentation de taxes résidentielles v'là 2 ans. Là, on avait le moratoire. On avait été obligé d'enlever la surtaxe sur les terrains vacants à cause du moratoire. Je disais, guys, vous avez bien beau l'avoir mis sur un piédestal, M. Laulier, ça finit mal.
Ben,
puis
moi,
là, ça finit avec un trou de 13,6 millions de dollars.
Je me demande si c'était pas calculé. Il savait qu'il quittait.
Ben, c'est...
Alors, ça ne tombait pas sur lui.
Je suis comme toi.
Je ne veux pas mettre... ces allégations-là sur le dos de quelqu'un.
Non, en effet, moi non plus, mais...
Mais c'est un peu la vision qu'il nous offre en ce moment, M. Laulier.
Oui, exactement. Ou il a tout simplement manqué le bateau avec son moratoire, parce que le 13,6 millions de trous, c'est pas mal ce que la taxe sur les terrains vacants lui aurait rapporté, mais à cause, c'était 12,8 millions. Fait que, on est proche.
Ça n'a pas fonctionné.
Exactement.
Important appel d'offres aussi à venir pour le tramway ici à Québec. Ben oui, on va en parler de cette manière-là maintenant du tramway. Il faut voir vers l'avant. C'est une façon dont on a donner tout le mandat et la possibilité à Bruno Marchand aux dernières élections. Donc, les travaux qui vont paver la voie au futur réseau. Ça va s'enclencher dans le segment le plus à l'ouest, là, près du IKEA. Alors, encore aujourd'hui, on en parle. La Ville de Québec va lancer l'appel d'offres pour des travaux du tramway. Et dès début 2026, dans le secteur Chaudière, près du IKEA, on va voir des choses se mettre en branle pour le fameux réseau de transport structurant qui va prendre son envol, tiens, ou les rails. Ça dépend comment vous voulez dire les choses.
Exactement.
Crise au PLQ, il y a un solliciteur de Rodriguez sous la loupe du DGEQ. Alors, bien sûr, j'ai pas le choix d'en glisser un petit mot, Pablo Rodriguez, qui a reconnu que le député libéral fédéral Fassaï El Khoury a sollicité des dons pour sa course à la chefferie du PLQ, mais ce dernier-là avait pourtant nié à la presse toute implication dans la course. Ça fait beaucoup réagir encore une fois aujourd'hui. Sinon, si je me dirige par contre d'une nouvelle un petit peu moins intéressante, peut-être au commun des mortels, mais très importante, parce que ça concerne énormément de personnes maintenant. Les batteries de vélos électriques, là.
Ouais, vas-y donc.
Depuis qu'on a commencé à en acheter en trompe, puis les gens se sont mis à être bien excités des vélos électriques, il y a des incendies. Puis encore aujourd'hui, incendie à Québec, où une batterie électrique de vélo est à l'origine de tout ça, puis ça crée d'importants dommages dans une demeure du secteur de Charlebourg. C'était ce matin à 9h30, les pompiers se sont dirigés pour une deuxième alarme, et c'était pas juste de la fumée, là. C'était le feu, littéralement, sur la 52e rue Ouest. On a alerté les secours, environ 30 sapeurs qui ont été déployés sur le terrain. On a aidé à l'évacuation, mais c'est des dommages assez importants. Une trentaine de minutes plus tard, par contre, c'était sous contrôle. Personne n'a été blessé, c'est l'important, mais c'est vraiment la batterie aux ions de lithium du vélo qui pourrait être à l'origine du brasier.
Donc, à surveiller lorsque vous avez des vélos électriques, prenez bien soin là, de faire les vérifications requises.
C'est le fait que ça bouge. Là, dans le transport, des fois, même avant la livraison, c'est ce que le service incendie de la Ville de Québec nous avait expliqué dans des entrevues. revu un petit peu plus tôt cette année, mais ça fait justement un genre de dérèglement dans la batterie, puis c'est inflammable.
On est très content de le recevoir en studio avec nous. Il est à Québec. Je parle de notre chroniqueur politique vulgarisateur Lambert Drainville. Comment ça va, mon chum? Je suis tellement content de te voir.
Ah, c'est le fun de vous voir en studio. C'est le fun d'être de retour à la maison,
oui,
à Québec.
De retour à Québec. Yes, sir. Toi qui as décidé de t'établir à Montréal.
Bon. Ouais, pour combien de temps, on verra.
Mais pour combien de temps, Lambert m'a déjà dit.
Beaucoup des gens de Montréal disent ça.
Il y a plein d'articles qui sont sortis dans les derniers mois sur l'exode des jeunes familles et des jeunes Montréalais qui n'ont juste pas les moyens de rester là. C'est mon cas. Je veux donner un propriétaire, je n'aurai pas le choix de regarder à l'extérieur de l'île.
En effet. Donc,
à l'extérieur de l'île, hein.
Pourquoi
Québec,
pas revenir à
la
maison?
Cap Rouge, le Bourg-Neuf, quelque part dans
c'est
ce coin-là.
Ça. La vieille capitale, notre capitale absolument nationale. Ça a brossé dans notre capitale nationale hier, puis c'est Magali Picard qui a décidé de mettre le feu. Guerre sociale!
Ça, c'est ça. Moi, Jeff, tu sais, j'étais responsable en communication au gouvernement. Fait que moi, j'étais responsable. Tu sais, quand j'analyse souvent la politique, je fais souvent la distinction. On le fait ensemble de la du fond versus la forme. Mm-hmm. Moi, j'étais responsable de la forme, évidemment. La communication, le message. Et donc, le titre de ma chronique aujourd'hui, ça va être « Tout ce qui est exagéré est insignifiant ». C'est une maxime qui me suit chaque jour. Et donc, effectivement, c'était le début de l'étude du projet de loi de Jean Boulet, le projet de loi 3, sur la réforme du régime syndical. On le rappelle, donc, sur, encore une fois, le fond. C'est un projet de loi qui demande aux syndicats d'ouvrir leurs livres, d'être 100% transparents sur leurs états financiers. Il scinde la cotisation syndicale en deux, rend une partie de la cotisation facultative. Donc, tout ce qui touche contester une loi adoptée par l'Assemblée, les campagnes de publicité de nature politique, la participation à des mouvements sociaux, tout ce qui rentre là-dedans.
La Coop 30 à Dubaï, ça rentre là-dedans.
Exact. Donc, ce ne sera pas interdit, mais le projet de loi va forcer les entités syndicales à rendre ça au vote des membres qui vont pouvoir se prononcer si oui, ils acceptent que les syndicats utilisent ce petit, ça représente à peu près 5% ou moins là, de ce à quoi servent les cotisations, si les syndicats peuvent aller de l'avant et utiliser ça pour de la pub, pour des campagnes politiques. Ça, c'est le fond. Fait que je vais laisser les gens se faire une tête sur le fond. Moi, je me suis déjà prononcé là-dessus. Sur la forme, maintenant, effectivement, Mme Magali Picard est en feu. C'est le moins qu'on puisse dire. Je t'ai sorti quelques extraits. Ouais. Le premier étant lundi dernier à l'Assemblée annuelle du syndicat des métallos.
On va préparer des questions et on va leur demander d'aller rencontrer des partis d'opposition. Le Parti québécois, oui, le Parti libéral, s'il y a Québec solidaire, perdra pas notre temps à aller voir la CAQ, là. On les ignore, ils sont morts. On ira pas voir le Parti conservateur, j'espère. Hein? On leur donnera pas d'exposure. Il est assez heureux de même, là. Il y en a un peu, il est tout énervé, notre ami, là, Éric Duhaime, là. Ouh! Hein? Ça va mal. Je passe à la TV, je suis content. C'est qu'on a des élections dans 10 mois. Si on passe à côté de ça, puis qu'on laisse un gouvernement venir au pouvoir et qu'il abroge pas ça dans les premiers jours, c'est le début de la fin. On est à la guerre pour que le 1er mai, on soit capable d'avoir une grève sociale au Québec. Ça veut dire qu'il faut paralyser le Québec.
Quand tu prends la rue puis tu la bloques, ça, c'est le fun.
Hey, ça, c'est le fun quand tu bloques la rue puis tu paralyses le Québec au complet.
Fait qu'on est en guerre. Éric Duhaime, qu'au-dessus de 500 000 personnes ont voté pour lui.
Ouais.
C'est un ulu-berlu.
Ouais.
La CAQ, c'est mort.
Ouais.
Puis, mais Québec solidaire est encore en vie, par exemple. T'entends-tu ça, Pascal?
Oui.
C'est bon, hein?
Ouais,
on est en guerre.
Qui le croit?
C'est le début de la fin. Telle partie, c'est des caves, c'est des insignifiants. Sur un ton tellement condescendant.
Mais c'est rare qu'on entend un ton aussi. Je veux dire, on dirait un ton de taverne.
T'as tellement raison.
Puis, encore là, un ton de taverne fâché. Là. C'est
J'serais
rare qu'on
voir la messagerie texte, tu l'as pas loin. Les gens disent quoi de ça, mettons?
418-971-1021, réagissez. Vous disiez quoi de ça, de Magali Picard?
Ben, j'ai un Dan qui dit vierge, qu'elle est suffisante.
Ah, exactement. Ça résume ce que les gens écrivent à l'heure actuelle.
On veut paralyser le Québec. Comment ça a fonctionné pour les employés syndiqués du service de transport de Montréal, de paralyser l'île de Montréal, ça n'a pas donné grand-chose. Le problème, et ce que les syndicats ne semblent pas comprendre, c'est que l'opinion publique, là, dans la lutte syndicale, elle est primordiale à leur cause. Sans qu'il y ait une grande partie de la population qui soit de leur bord, ils vont avoir beaucoup de misère à mettre de pression sur le gouvernement parce que c'est la population, mine de rien, qui élit nos représentants à l'Assemblée nationale. C'est à eux que les élus sont redevables d'abord et avant tout. Alors, d'avoir l'opinion publique de son bord pour le mouvement syndical, c'est hyper important. On l'a vu avec la lutte des médecins. Alors là, moi, je regarde leur stratégie de communication. Ben franchement, pour moi, là, c'est zéro comme dans Ouellet. Je reviens à ça. Là, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Et ce qu'on vient d'entendre, je suis certain que les gens trouvent ça exagéré. Puis quand ils écoutent ça, ils font « bon, encore, ça rentre d'une oreille, ça sort par l'autre ». Maintenant, hier, en commission parlementaire sur le projet de loi 3.
Laissez-moi vous dire que j'entends déjà le ministre nous dire « Ah, comme ça, la FTQ, vous êtes contre la transparence syndicale. La FTQ, la présidente veut continuer à aller à Dubaï, payée par les membres. Vous êtes d'accord avec les scotch, avec les steaks ou le filet mignon. » Alors ça, pour vous dire que c'est vraiment insultant. Vraiment insultant qu'on prenne des anecdotes. Alors là, ce qui est assez pathétique également, c'est qu'on a un ministre du Travail qui est dans la même chaise depuis 7 ans. Et il y a deux choses, Monsieur le Président. C'est soit qu'il est innocent ou il fait l'innocent. Parce que vous ne me ferez pas croire que le ministre, en 7 ans, il n'a pas eu le temps de comprendre les structures syndicales.
Continuez d'interagir au 418-971-1021. Un sérieux power trip de Magali Picard, elle a l'air de se penser invincible. Magali, c'est une Rambo 2.0. Cette femme doit être congédiée de son poste et les syndiqués doivent commencer à se poser de sérieuses questions sur comment leurs cotisations sont dépensées. Perso, je la crée dehors, elle n'a pas sa place, elle se prend pas pour de la merde.
Qu'est-ce qui vous dérange le plus au 88-971-1021? C'est le ton ou c'est vraiment le contenu de ce qui est dit?
Et là, la transparence, Lambert, c'est juste normal, la transparence. Fait que pourquoi on traite le ministre d'innocent quand il veut juste la transparence?
Tu sais, comme je te dis, sur le fond, on peut débattre. On l'a fait avec Farnell il y a quelques semaines sur est-ce que c'est un empiètement de la liberté syndicale, des droits syndicaux. C'est sûr qu'il y a un débat à avoir là. C'est sûr que ça va plus loin que n'importe quel gouvernement avant. Mais pourquoi est-ce qu'on en est rendu là? T'sais, tu l'entends dire, c'est vraiment insultant que le ministre prenne des anecdotes. Mais je m'excuse, Mathieu, mais si c'est des anecdotes pour toi là, que tes gens là, dépensent 55$ par verre de scotch de l'argent des membres, que tu t'en ailles à Dubaï en pleine négociation du Front commun, si vraiment ça n'avait pas été un scandale puis ses membres avaient été tellement d'accord là, avec son voyage à Dubaï, penses-tu qu'elle serait revenue en moins de 24 heures?
Ben non.
Tu sais, je pense pas que c'est à son avantage d'essayer de diminuer ces dépenses-là. Ils se sont mis, les syndicats, dans cette situation-là. C'est eux-mêmes qui l'ont entrouverte la porte pour que le ministre du Travail fasse « Ah, ben regarde, il y a clairement un problème là, on va agir. » Le prétexte pour que lui utilise pour aller aussi loin, c'est eux autres qui y ont donné comme une passe sur la palette.
Alors, je suis d'accord avec toi à 100% là-dessus. Puis Pascal, corrige-moi, c'est pas des anecdotes là. Dubaï, les whisky à 55$, les pick-up neufs à chaque année. Je veux dire, à un moment donné, c'est de l'argent, ça.
Ben oui, puis je veux dire, même dans les choix personnels qu'on fait, nous, on se rendrait pas là. Si en plus c'était pas notre argent, je pense qu'on serait un petit peu plus.
Non, puis imagine si c'était un élu qui avait fait ça, là, tu sais, tabarouette, il
peinturait dans le coin tout de suite.
Il serait peinturé dans le coin, il faudrait qu'il s'excuse. C'était n'importe quelle organisation.
Faudrait qu'il démissionne.
En fait. Ben ouais.
Si un élu utilise les mots que Magali Picard a utilisés à l'endroit du ministre Boulay, il démissionne. Il est mis dehors.
Ouais.
Sa carrière politique est terminée.
Des gens qui trouvent que c'est vraiment quelque chose qui a tendance à revenir avec Mme Picard, là, entre autres, on nous écrit, elle est souvent comme ça, de type enragée, souvent en colère, très difficile de l'entendre puis de lui donner du temps dans nos journées en actualité. C'est des auditeurs qui commencent.
C'est vrai, ça, c'est un excellent point.
Tu sais, encore une fois, de mon point de vue de responsable, d'ancien responsable des communications, pourquoi tu fais pas juste admettre que c'est inacceptable, ces dépenses-là? Pourquoi est-ce que, tu sais, leur but, au final, c'est de faire de la politique. Leur but, au final, c'est que cette loi-là, elle passe pas. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour que cette loi-là, elle passe pas? Bien, faire preuve de bon vouloir, tu sais, mettre en place, dire, avant même que le ministre arrive avec sa loi, de dire, ah, écoutez, monsieur le ministre, on trouve que c'est inacceptable, effectivement. Ça n'a pas de maudit bon sens. On passe le message à nos membres. On met en place nous-mêmes. Puis il y en a qui le faisaient. Il y a des syndicats déjà qui avaient leur livre ouvert, qui étaient très transparents, certains d'entre eux, sur toute forme de dépenses qui étaient très tournées vers les membres, qui leur demandaient souvent leur opinion. Il y en a qui le faisaient déjà.
C'est
il y en a qui ont mis en place des méthodes de transparence. C'est comme ça, selon moi, qu'ils auraient pu dire au ministre, mais écoutez, là, on a déjà mis plusieurs éléments en place avant même que vous arriviez avec votre loi. Je pense pas que c'est nécessaire.
Mais avec une transparence et une ventilation, ça va aider aussi, je pense, à rétablir le fameux contexte des syndicats dans la vision publique des gens. Ils n'ont pas nécessairement le borésé à la jambe. Là. À chaque fois qu'on parle de négociations et tout ça, c'est les syndicats. C'est fort là, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on entend. Peu importe les grèves, peu importe les revendications, le syndicat, c'est comme si c'était plus moderne, c'était plus actuel. Il y a encore des bons combats qui sont menés pour des bonnes raisons au niveau syndical aussi.
C'est hyper important.
Mais ce qui se passe là nuit énormément à l'image. Est-ce qu'on s'en rend compte du côté de Mme Picard?
Bien, c'est ça. Puis c'est Mme Picard, mais c'est les syndicats en général.
En général.
Tu sais, bien honnêtement, mon message, moi, il est pour tous les syndicats. Comme je le dis depuis le début, tout ce qui est exagéré, il est insignifiant. La population, ils en ont marre de voir que dans chacune des décisions qui sont prises au niveau des syndicats, le bien commun, le bien de la population, non seulement ça fait même pas partie de la réflexion. On l'a vu avec la FAE qui a brimé les enfants d'école pendant un mois il y a deux ans, sans fonds de grève pour leurs profs, avec des millions à dépenser par contre pour contester la loi 21 que plusieurs de leurs membres probablement supportent. On l'a vu avec les dépenses dont on a parlé, scotch, voyage, repas de luxe. On l'a vu avec Post Canada, tu sais, qui sont visiblement une organisation trop archaïque et bornée pour se moderniser. Ça coûte des centaines de millions de contribuables pour les garder en vie
à
chaque année.
On leur a fait près d'un milliard. Boutière.
Puis en plus de ça, durant le temps des fêtes, ils n'envoient pas les colis, puis ça fout le bordel d'un PME. Mm-hmm. Puis on l'a vu évidemment récemment avec les syndiqués du transport à Montréal. Alors les Québécois en ont un peu marre de se faire prendre en otage. Et j'ai beaucoup de difficultés à comprendre c'est quoi exactement la stratégie de communication des syndicats. Peut-être commencer par un petit processus d'introspection, admettre ses erreurs, mettre en place des stratégies pour que ce genre d'événement-là se soit mieux balisé, arrêter de faire peur au monde, là, de dire c'est la guerre, on va paralyser tout, on rentre en guerre, la Terre va arrêter de tourner demain.
Bloquer les rues, ça c'est drôle!
Ça c'est drôle, hein, oui, hey, c'est tellement drôle. Enlevez une coupe de bûches dans le feu, là, menez vos batailles sur un ton constructif, soulignez les bons coups quand il y en a, informez correctement vos membres par rapport aux changements qui sont réellement en train d'être mis en place. Parce que présentement, je vous l'annonce à tous les syndicats, si un jour... À une certaine époque dans l'histoire du Québec, vous étiez en situation de force au niveau de l'opinion publique. Vous ne l'êtes plus.
Et hey, parlant de souligner les bons coups et de bonnes stratégies de communication, on entend Jean Boulet, le ministre...
Je t'ai envoyé la clip juste pour qu'on voit un petit peu la différence de ton. T'sais.
Exactement. Ministre du Travail, Jean Boulet, écoutez bien. Après s'être fait traiter d'innocent, écoutez bien ça.
Écoutez, d'abord, vous remercier d'être ici et d'avoir préparé un mémoire. Je sais que vous y avez mis... du temps. Je veux aussi féliciter la FTQ Construction, là, qui, de façon contemporaine, au dépôt du projet de loi, a soumis à l'attention de ses membres une politique pour contrôler les dépenses, pour éviter ce que les médias appelaient des factures salées.
Il gagne la guerre de l'opinion publique.
C'est un négociateur. C'est ça, sa job. Hey, tu penses que je parlais de passe à la palette, là? Tu sais, ils sont tellement pas stratégiques. Lui, es-tu mort de rire? Hey, il la voit déchirer sa chemise, le traiter d'innocent. Hey, lui, as-tu le beau jeu? Après, c'est Jules Good Guy. Hein? Il s'assure de garder l'opinion publique de son bord. Ah, merci d'être là. Merci pour votre mémoire. Salut même les bons coups. Quand je te disais, il y a des syndicats qui mettent en place des mesures plus transparentes. Il en a lui-même donné un exemple. Il a souligné le bon coup. Prenez des notes. Les syndicats, prenez des notes, parce que tout ce qui est exagéré est insignifiant!
J'attendais
une réponse à studio, mais... j'attendais.
Ouais, c'est moi, là. Je m'excuse, j'ai un blanc de mémoire sur insignifiant. Ouais. Hey, parlant de guerre de l'opinion publique, on passe à ton autre sujet. On écoute Vincent Marissal par rapport à la grève à la STM, l'appui de Québec solidaire aux grévistes, qui a été la goutte de trop pour lui.
Ça va l'air de ça. Vous dites que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la position de Québec solidaire face à la grève des transports à la STM, position que les co-chefs ont défendue sur ce plateau dimanche dernier. Ouais. Selon vous, votre parti était du mauvais côté de l'histoire en adoptant une position strictement syndicaliste, déconnectée du terrain et de la population qui souffrait de l'absence de transports en commun. Est-ce que vos électeurs vous l'ont reproché, ça, cette position-là de Québec solidaire?
Oh que oui. Puis moi, je suis un gars de terrain, là, puis j'ai la chance d'avoir un comté très urbanisé. Là. Quand je fais mon épicerie sur la rue Masson, je parle à tout le monde. Pour ceux qui allaient acheter un pain, pour moi, ça prend deux heures, là, parce que je parle à tout le monde. Puis vous n'avez pas idée du nombre de courriels
que vous avez reçus.
Qu'on a reçus. Puis moi, je les moniteur avec mon équipe, parce que c'est important d'avoir le pouls. Et pour un qui nous disait « bravo, bravo, continuez la lutte syndicale », tous les autres nous disaient « vous nous avez abandonnés, vous nous avez tourné le dos ». Et moi, je pense qu'effectivement, cette position tournait le dos.
Est-ce qu'il vient justement d'aller chercher avec ceci, je vais le dire comme ça, là, l'approbation de ses électeurs? Est-ce qu'il vient justement de se rapprocher de ses électeurs en mentionnant ceci en quittant Québec solidaire?
Bien, c'est sûr que lui, il prend le bord de ses électeurs. On en avait parlé ensemble. les électeurs de Québec solidaire sont essentiellement à Montréal, là, en grande partie, puis ce sont les gens qui prennent les transports en commun, qui n'ont pas de voiture, fait qu'ils étaient les premiers visés par cette grève-là. Maintenant, la décision du parti, encore une fois, on en a parlé, pas obligé de revenir là-dessus, fait que c'est sûr que lui, il allait pour ses commettants. Sur le fond, qu'il quitte, qu'il a été déçu de la position de son parti sur la STM, sur Haroun Boisy, de dire que la base de QS rend ça ingouvernable, t'as le droit là, d'être déçu, t'as le droit de quitter, t'as le droit d'être rendu ailleurs. Ça, c'est bien, mais je reviens encore à ça. Sur la forme, et Labrie, Christine Labrie et Gabriel Nadeau-Dubois, qui ont également annoncé qu'ils quittaient dans les derniers mois, sont des bons exemples de ça. Il y a une manière de le faire. Là, il sort en point de presse. Il n'est pas content que le parti ait appris qu'il y avait eu des discussions avec le PQ. Tabarouette, hein. Puis là, il sort en disant, écoute, le parti n'est pas gouvernable, il n'est pas rationnel, il est paralysé, tu sais, il fesse dans le dash solide, là. Solide, là, tu sais. T'étais-tu obligé d'aller aussi loin que ça?
C'est deux manques de respect consécutifs pour toi, pour un parti dans lequel, mettons, t'as pu évoluer à travers des années?
Ben c'est ça, c'est exactement ça. Ça fait 7 ans que tu te bats pour ce parti-là. Puis t'étais journaliste à la presse pendant des années avant. Depuis la naissance de ce parti-là, qui ont de la difficulté à concilier les désirs de la base avec les désirs de l'aile plus parlementaire, plus pragmatique. Tu me feras pas à croire que là, soudainement, tu t'es réveillé après 7 ans comme député, puis bang, esprit, tu viens d'apprendre que, la base, ça n'a pas de bon sens, c'est dommage radical, ce parti-là. Fait que tu sais, à un moment donné, t'as milité pour ce parti-là, tu l'as défendu pendant des années, puis là, tu sors comme si t'avais eu une illumination. Puis, ben honnêtement, il est un peu dur à suivre. Tu sais, dans les dernières années, il a approché le Parti libéral du Canada, un parti multiculturaliste fédéraliste, avant d'aboutir chez Québec solidaire, qui est multiculturaliste mais souverainiste de façade. Puis là, il est rendu qui approche le PQ, qui lui est zéro multiculturaliste, puis souverainiste dans le plancher. Là, il se présente en grand défenseur de l'indépendance. Ses collègues, puis bien franchement, à l'Assemblée nationale, à l'interne, on le savait très bien. Là, on les connaît, là, les grands indépendantistes, nationalistes, souverainistes.
Marissa n'en fait pas partie.
Ben non, pas vraiment. Puis,
ah, ben attends une minute, il y a un passé à la presse. Ouais, la presse, c'est un média souverainiste.
Ben vraiment, vraiment. Tu sais, il dit qu'il a essayé de faire équipe avec GND pour recentrer le parti. GND est sorti hier pour contredire ça. Tu sais, fait que là, tu fais de la politique. Un peu comme ce que je t'avais dit avec Maïté Blanchette-Vézina, c'est quoi ton endgame? Tu sais, tu fais de la politique, ton but, c'est un objectif. Visiblement, c'est d'être réélu pour lui dans Rosemont. Tu sais, si c'est ça ton objectif, peux-tu quitter d'une manière... Je te donnais, quand on se parlait plus tôt avant d'entrer en onde, la métaphore sportive, tu sais... T'es un athlète, là, puis là, soudainement, t'as plus de contrat. Tu penses, tu t'en vas-tu de la chambre, là, après la dernière pratique, en envoyant chier tes coéquipiers, ton directeur général, ton équipe au complet? Non. Qu'est-ce que l'autre... quand tu vas être free agent, quand tu vas être agent libre, là, une autre équipe qui va vouloir t'embaucher, ils vont peut-être se dire, ouais...
Ouais, tu pars, puis là, tu disais, hey, je vous remercie pour les bonnes années que vous m'avez données. Hey, je me souviens, en 2008, on a fait une longue run, on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. J'aurais donc bien aimé ça, lever la Coupe Stanley chez
puis
vous.
Puis je pense que si, par exemple, t'as des altercations régulières avec ton parti, ça fait plus, t'es en chicane ou quoi que ce soit, il y a quand même manière de dire merci
ben
à
oui.
tous ceux qui ont été supporters du parti pendant ces années-là. Moi, je m'en vais ailleurs pour donner... Tu sais, tout est faisable d'une façon gracieuse.
Ben, tu sais, puis encore une fois, je donne l'exemple de Christine Labrie puis GND, ont pas mâché leurs mots là, sur notamment la base militante, comment c'était difficile de remplir leurs objectifs et leurs demandes, qui étaient très difficiles à satisfaire. Ils ont passé leur message, mais ils l'ont fait d'une certaine manière où ça n'entache pas le parti plus qu'il faut. Ouais. Et à un moment donné, ce gars-là va devoir, s'il veut se faire élire, se trouver une nouvelle formation politique. Et Dieu sait que le PQ, présentement, n'ont pas de difficulté à trouver des candidats.
Non,
si tu as le choix entre un candidat moins connu, mais qui a des bonnes chances de se faire élire dans Rosemont parce que le PQ est dans le haut des sondages, ou le gars que tu sais que si tu l'embarques dans ton équipe, pis si ça va mal dans 3, 4, 5 ans, puis ça commence à
il
chauffer.
Il va te poignarder dans le dos.
Il va te poignarder dans le dos, il va aller se magasiner à un autre poste d'un autre parti, puis le mec, il sacque son camp, il va crisser. Oups, excusez-moi.
Le feu.
Il va sacrer tout le monde en dessous de l'autobus. Sérieusement,
ouais.
je.
Mais là, attends une minute, là, je t'ai vu fâché, là. Puis là, il te reste une minute à ta chronique. Là. Fait que là, je vais te faire un cadeau. Vu que tu es ici, dans nos studios à Québec, et que j'apprécie tes chroniques deux fois par semaine, déchire ta chemise, je suis Jean Chrétien, puis les libéraux en 95. Ah ouais, là.
Ben, ouais, ben, encore là, tu sais, oui, tu sais, c'est, ben, franchement, c'est, tu sais, personne n'est tombé de sa chaise.
Ben non.
Tout le monde a vu ça passer. Les fling-flang du camp du non, on en a-tu vu passer, là, les dépenses fédérales non déclarées, toute l'affaire du Levin, le scandale des commandites, tu sais, écoute, la liste est longue. Fait que, tu sais, un de plus, un mois, on n'était pas très, très surpris. Maintenant, au niveau éthique, comment les différents partis ont réagi? Ils ont tous réagi de la même façon. Le fraude organisée, clame le PQ. Référendum volé, QS. Mépris de la démocratie, la CAQ, même Éric Duhaime, ce qu'il qualifie de commande politique. Qui est le seul parti qui n'a pas été capable de critiquer une tactique frauduleuse et antidémocratique?
Attends, t'as mené ceux-là qui ont offert des brownies, là?
Et bingo! Ce sont toujours les mêmes, les partisans de la, disons, de la, l'éthique et des, des méthodes de financement absolument rigoureuses.
Pascal, même mon père, qui a toujours vécu avec ses bobettes rouges libérales, qui en 95 voulait garder son Canada, OK? Avait décidé de voter pour la CAQ. Là, il est déçu à côté de François Legault. Il me parle de François Legault et de Donald Trump sur le même ton, c'est dire, OK? Okay? Mais avec ce qui se passe depuis deux semaines au Parti libéral du Québec, il m'a dit « Sais-tu quoi? » D'après moi, je vais retourner à la CAQ.
Ben, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont actuellement fanés politiques, puis c'est sûr qu'il y en a qui vont faire le syndrome de l'écureuil. Là.
Ouais.
Puis si c'est favorable à la CAQ, j'en reviens pas. Ben, en même temps.
Ben, c'est sûr que c'est favorable à la CAQ.
Puis,
c'est
clair. Mettons aux élections, si on voit ça, puis c'est effectivement constaté, puis c'est vrai.
Non, mais c'est sûr, je te le dis aujourd'hui, je te le dis, c'est favorable
à la CAQ. Là, ça va être ça.
Non, je te dis pas, ça va être ça. Je te dis, ça l'est présentement, puis maintenant, reste à voir dans quelle mesure ça le sera.
Mais admettons qu'aux élections, la CAQ remonte effectivement, puis dans les votes, c'est concluant. Ça va résumer à quel point, actuellement, on est pauvre politiquement, et je l'explique d'une seule manière.
Vas-y donc.
Juste, Vincent Marissal, la manière dont tu fais les choses. Quand t'es politicien, là, quand t'es une personnalité politique, tu dois avoir un respect qui est plus haut que ton parti, qui est plus haut que tes collègues, qui est plus haut que le parti d'opposition, qui est plus haut que... C'est un respect de la politique en soi. Puis ça s'est tellement perdu, selon moi, dans les dernières années, de dire ciao bye à son parti comme ça, puis en se disant peut-être ben, si je ramasse mon ancien parti, je vais favoriser un autre parti, donc dans ma façon de parler, on va peut-être en choisir un autre parti, puis le mien va en souffrir, mais pas nécessairement. Tu viens de faire souffrir la politique en entier.
En effet.
Parce que tu dois être content d'avoir des opposants politiques. Tu dois être content d'avoir des débats d'idées, puis d'être en chambre, puis de poser des questions, puis des choses comme ça. Tu dois avoir du respect pour l'électeur qui veut ces débats-là, qui veut pas juste se faire dire et imposer des choses, mais qui veut comprendre ce qui se trame en arrière. Et d'avoir des opposants, d'avoir des gens qui pensent pas comme toi, qui sortent de la boîte de verre,
c'est très sain.
C'est sain.
Ouais.
Puis c'est essentiel en démocratie. Puis je trouve qu'actuellement, tout parti confondu, il y a beaucoup de personnalités politiques qui manquent de respect à la démocratie qu'on a et à la politique.
Ouais. Ouais. Puis, tu sais, je vais juste finir avec le Parti libéral.
Vas-y.
Ils sont présentement dans une crise terrible qui leur fait énormément mal. Là, il y a un enjeu d'éthique par rapport au référendum de 95 qui sort dans les médias. C'est de quoi qui est arrivé il y a 30 ans. Si tu n'es pas capable de dénoncer les manières non éthiques qui ont été utilisées il y a 30 ans, alors que toi-même, tu traverses une crise où ton fonctionnement puis ton éthique est remis en question, bien, tabarouette, j'ai le goût de te laisser en te disant, des fois, en politique, là, tu récoltes ce que tu sèmes.
Et t'as entièrement raison. Lambert Drainville, cette chaise-là sera toujours disponible pour toi quand tu passes à Québec. C'est toujours un plaisir de te voir en personne, mon chum. Oui, c'est ça, il déménage à Québec très, très, très bientôt. Pascal, tu nous as préparé une entrevue avec une invitée là, qui s'en vient après la pause. J'ai donc bien hâte. Présente-nous-les.
Oui, Claudia, vous l'avez déjà entendu. J'avais fait des dossiers avec elle et elle a récemment fait un point de presse important au niveau du fédéral. C'est cette femme-là qui a été victime d'un accident avec les chauffeurs Inc. alors qu'elle s'est ramassée entre un chauffeur de poids lourd et un autobus scolaire en genre de crêpe et elle a survécu à cet accident-là. Puis maintenant, ben, elle se veut un peu porte-étendard de la sécurité qui se doit d'être augmentée. La façon dont on octroie les permis. Il y a eu plusieurs quand même changements là, dans les dernières semaines. Mais elle a été invitée au fédéral dernièrement pour jaser de tout ça. Alors, on va aller lui jaser et lui demander qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que tu as été reçu au niveau politique, comment est-ce que les gens t'en parlent. Mais il y a eu conférence de presse avec Xavier Barcelos-Duval qui a été aussi, splouché partout.
Et on va parler d'immobilistes, je crois, du Parti libéral du Canada dans le dossier. Donc, c'est immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102.1.